Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Et ce matin, on accueille Pierre Gervais qui est arrivé avec un premier livre sur ses souvenirs de vestiaire à travers les époques. Ça a tellement bien marché que le tome 2 est maintenant disponible.
Oui, Pierre Gervais en prolongation, c'est la suite de ce premier livre qui, on connaît, a été un succès de librairie assez spectaculaire. Pierre, ton premier livre.
Il fallait lire les gars, c'est quand même
pas
pire.
Mais oui, c'est ça. Mais t'en parles d'ailleurs dans le livre, là, d'un article dans Le Devoir où on soulignait que... Tu sais, ce livre-là avait eu un effet chez les jeunes lecteurs, là, les amener à aller en librairie puis acheter des livres puis lire. Là.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Mais ce qui m'a, honnêtement, là, ce qui m'a vraiment plu, c'est ça. C'est qu'avoir des gens qui, encore hier, ont un brunch sur la Rive-Sud. Puis la demoiselle m'a dit, mon conjoint, là, il lit jamais. J'ai jamais vu qu'un livre dans les mains, mais quand il est sorti, il l'a acheté puis il l'a lu. Puis ça, ça me fait plaisir. Ça peut... Moi, j'adore lire, là. Puis ça peut inciter les gens à lire plus de livres, là, ça va être extraordinaire.
Est-ce que tu as hésité quand on t'a parlé de faire une suite?
On m'a pas parlé de faire une suite, ça vient de moi. Honnêtement, là, le premier livre n'était pas prévu, puis le deuxième encore moins. Alors moi, toutes les fois que les gens, que je rencontre des gens sur la rue, des amis, mes enfants, tout le monde me disait... T'as oublié ça, t'as peut-être parlé de ça, t'aurais peut-être pu faire ça. Fait que là, ça me fait penser à d'autres histoires. Puis, tu sais, des fois, t'as un souper entre amis, puis tu m'as parlé des histoires, puis j'ai oublié ça. Puis, fait que ça me fait penser à faire un deuxième livre à cause de ça. Fait que j'ai contacté Mathias, puis c'est venu comme ça.
Et dans le premier, tu parlais beaucoup de personnalités, des gens que t'as côtoyés. Dans celui-là, j'ai trouvé que tu t'attardes beaucoup à la vie d'un club de hockey. Tu parles même de la mode, les joueurs qui suivent la mode. Puis les arbitres, comment ça se passe avec les arbitres. Comment ça se passe quand les gars arrivent. Là, tu parles de Cole Caulfield qui est arrivé avec son équipement. Puis c'est plus la vie que des personnalités en particulier là, que tu décris.
Oui, c'est sûr, parce que comme je disais, le premier livre, il était pas prévu. Puis tu sais, j'ai comme sorti tout ce que j'avais à sortir. Puis on s'attarde beaucoup sur l'année du Canadien, la dernière année du Canadien, puis Martin Saint-Louis, puis tout ça, là. Puis le deuxième, c'est plus posé, plus... Puis c'est toutes des nouvelles histoires, là. Tu sais, je tiens à le dire. C'est pas des affaires qu'on a rejetées au premier livre parce qu'on pensait même pas à faire un deuxième. Fait que c'est toutes des nouvelles... du nouveau matériel, des nouvelles histoires.
Les habitudes des joueurs.
Exactement. Quoi. Je suis allé plus profondément, si tu veux, avec Mathias.
Mais il y a deux ou trois éléments qui m'ont pas mal frappé. D'abord, le côté plus personnel. Je pense au voyage de pêche avec Bergevin.
Oui.
C'est quand même pas banal, une aventure comme ça, là, puis on est loin du Centre Bell. Là.
Oui.
Jusqu'à quel point ça, je dirais, développe une relation avec un DG, puis qu'on peut se dire les vraies affaires là, quand on est dans un voyage comme celui-là?
C'est une bonne question. On se connaît déjà pas mal beaucoup, ça faut le dire. Hein, tu sais, Alain, on vit ensemble 7 jours par semaine à l'année. C'est sûr que l'aspect directeur général puis gérant d'équipement reste toujours. Sauf que on se voit sur un angle différent. Autant moi de lui pour lui pour moi là. Marc Bergevin, c'est un gars qui est super le fun. C'est sûr que dans le premier livre, je l'ai gratté un petit peu, mais c'est ses côtés les dernières années puis en tant que gérant général. Mais c'est un gars qu'à l'extérieur de la passe noire, il est super cool.
C'est
un gars drôle, il est le fun, il aidait. Tu sais, c'est fun de voir ces gars-là. Même Claude Julien, les autres que je parle, là, c'est des gars qui sont reconnaissants, qui sont des êtres humains comme nous autres, dans le fond. Là.
La deuxième chose, il y en a qui ont chialé après le premier livre. Là, ça
ah
s'est
oui, il
fait...
y en a-tu? Ah oui!
Mettons, parce que je me souviens que quand t'es venu en studio, on en a parlé, puis je pense que 24 heures après, ça commençait à se dire de ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire.
Non, c'est ça, ouais.
Cette controverse-là qui a suivi, est-ce que, un, tu l'avais anticipé, puis comment tu l'as vécu?
Ben écoute... J'avais anticipé un petit peu de vagues sur le lac, mais je suis embarqué avec ma chaloupe de 16 pieds, mais ça n'a pas été long que je m'en ai un bateau de 35 pieds. Là. ce qui m'a le plus déçu honnêtement, c'est que les gens aient critiqué sans l'avoir lu. Moi, ça, je le dis souvent, puis ça m'éteint, là. Tu sais, faut être professionnel. Je suis certain que vous avez lu le livre, vous les deux, là. Puis, tu sais, tu le livre, si t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Moi, je critiquerai jamais un restaurant que je suis pas allé. Fait que, tu sais, tu peux entendre les gens dire, ah, là, j'étais là, puis c'est pas bon, le service c'est pas bon, puis peu importe quoi, je dirai jamais rien tant que je suis pas allé. Ça, ça m'a déçu. Comment j'ai vécu ça? Honnêtement, personnellement, j'en ai vu d'autres. C'était pas facile. Surtout pour mes enfants. Tu sais, je voyais mes grands, que ça, eux, ça les affectait beaucoup. Mais regarde, c'est la vie. Puis moi, j'ai décidé de dire les vraies affaires. Puis that's it, that's it.
Moi, tu commences le livre en parlant de tes années avec ton passage chez les Draveurs, ensuite à Sherbrooke avec le club ferme du Canadien. Et moi, ça m'amène, parce que tu as connu là les années Michel Bergeron, puis Rodrigue Lemoine, puis Ron Racette. Puis c'était là une époque de hockey junior là, qui était pas... On a beaucoup parlé des fameuses initiations au cours des dernières années. À l'époque, là, toi, est-ce que t'as vu des choses? Comment ça se passait chez les Draveurs?
Premièrement, ça ressemblait plus à Slapshot. Dans ces années, d'autres choses, là, c'est ce qu'on a vu. Moi, c'est comme j'ai des initiations, là, j'ai jamais vu de quoi de vraiment dégradant, dégueulasse. Honnêtement, j'ai été longtemps dans le junior, là. J'ai jamais vu ça. Tu sais, j'ai vu des choses que c'est pas Jojo, là, c'est pas la fin du monde. Il y a personne, tant qu'à moi, qui peut être marqué de ça. Ceci étant dit, je remets pas en question la parole des gens qui l'ont vécu puis qui ont déclaré. C'est sûrement arrivé. Mais moi, j'ai pas vécu ça personnellement, puis j'étais là, omniprésent, là.
D'ailleurs, en le lisant, je me disais peut-être que le troisième livre, ça pourrait être ça, tes années chez les
Si il y a un troisième livre, là, on tomberait dans le sang mouvant.
Non, mais avec le junior, t'en auras raconté pas mal.
Écoute, j'aurais plein
mais,
écoute,
des au-delà des initiations, c'est une époque, là, tu pourrais même pas imaginer ça aujourd'hui, là, c'était d'une violence assez incroyable, puis les goûts dans les équipes, puis tout ça.
Honnêtement, là, tu sais, Mike Bossy est décédé, ça fait pas si longtemps, là, puis je me rappelle de Mike Bossy qui venait jouer à Trois-Rivières. Ouais. Écoute, tu sais, les arènes des Romains dans le temps, là, le morceau de viande avec les lions alentour, c'était ça. Ça me faisait tellement de quoi, personnellement, là, parce que tu voyais un talent extraordinaire, mais à l'époque, c'était ça. Puis Charles Bergeron voulait gagner, Ron Russell voulait gagner, il voulait tout gagner, il était à tout prix. Rodrigue Lemoine, on parle de Sorel. C'était ça.
L'autre chose qu'on apprend dans le livre, c'est que le Lightning était intéressé à t'avoir une fois que t'as annoncé ta
retraite. Ouais, mais ça n'a pas été long.
T'as jamais considéré aller travailler pour une autre organisation?
Non, jamais. Jamais. Moi, j'ai le siège tatoué sur le cœur. Je voulais pas déménager, tu sais, j'avais une épouse, des jeunes enfants, puis même mon épouse était prête à le faire, mais moi non, jamais.
En terminant, Cole Caulfield.
Numéro 22, hein?
Ouais. Raconte-nous quand il est arrivé pour la première fois à Montréal, les premiers commentaires que tu t'es fait à toi-même en le voyant.
Ben, je vais te faire plaisir, là.
On va aller chercher Catherine, là.
Il peut s'exprimer librement.
Ouais, c'est ça. Non, Cole Caulfield, écoute, je l'ai vu à Montréal, puis probablement, c'est sûr que sa stature, j'avais vu Brent Jenta, puis il est pas grand, il est pas gros, mais il est fait fort. Mais moi, c'est son sourire. Comment je dirais ça? Sa raison de vivre ou... Le gars, il est brillant. Il est lumineux. C'est le fun de le voir faire. C'est le fun de voir. Puis j'avais arrivé, puis il avait les yeux grands. Il avait les yeux... il regardait l'environnement, puis je vais aller là. Oui, je vais aller là. Puis le gars, là, c'est bien, bien le fun. Puis entendre dire que Suzuki puis lui sont devenus bien, bien chum. Puis c'était un bon hockey. Méchant bon hockey. Méchant bon joueur de hockey. Puis... Wow, je suis content d'avoir connu ses débuts.
As-tu des contacts encore avec des gens de l'organisation? Est-ce que ceux qui t'ont succédé t'appellent de temps en temps?
Non, on se parle, on se texte de temps en temps, puis c'est plus moi qui les texte parce qu'ils sont occupés, là, mais c'est, je trouve ça drôle de voir leur horaire, tout ça, là, mais c'est bien, bien le fun.
Pierre Gervais en prolongation, écrit par Mathias Brunet. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Pierre.
Il y a des petits patins, par exemple, qu'on
t'a fait. Des petits patins.
Puis des petites lames, hein?
Oui, des petites lames, des petits patins, puis ça se trouve pas partout.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Volet construction et logement. Vous connaissez le discours politique. Nous voulons des logements sociaux, des logements abordables. Il faut investir. On sait très bien que les chiffres sont un peu, disons, arrangés avec le gars des vues pour ce qui est de la ville de Montréal quand il vient le temps de faire un décompte. Puis là, on lance des appels à tous les paliers de gouvernement. Faut investir. La presse, ce matin, a fait une enquête et découvre que le temps d'attente, puis là, il faut après ça décortiquer, là, mais le temps d'attente pour obtenir un permis a augmenté de 34% au cours des dernières années. Ça varie d'un arrondissement à l'autre. Il y a différentes étapes. Et t'as beau vouloir construire, si la bureaucratie rend ça tellement complexe que ta décision, en bout de ligne, c'est d'oublier le projet, de renoncer parce que t'as pas envie de perdre de l'argent pendant des années. Prenons le cas d'un entrepreneur, il s'appelle Thomas Smister, il est PDG de Construction Tomico. Monsieur Smister, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arc.
OK. Donnez-moi un exemple de projet que vous avez essayé de réaliser à Montréal et qui a été pris là comme ça dans les dédales des permis puis des requêtes.
Écoute, le meilleur exemple, je ne sais pas si je dois nommer la ville en tant que telle, mais disons que dans un arrondissement de la ville, ça a pris 6 ans pour avoir un permis. Un an, déjà que je trouve ça très long, je vais être capable d'accepter puis de voir avec la bureaucratie. Mais 6 ans, là, ça a été épouvantable. Extrêmement long, des demandes sur demandes. On a émis après une dizaine de versions de plans avec 3 architectes différents. Puis à chaque fois, le projet ne passait pas. Puis c'est drôle parce qu'on respectait tous les règlements de la ville.
OK. C'était quoi le projet exactement?
Écoute, c'est assez simple, c'est vraiment assez banal comme projet. C'est la construction d'un 4-plex, donc un logement, un bâtiment de 4 logements. Assez bien fait, même on voulait avoir beaucoup de chambres à coucher, etc., pour justement régler un peu le faille-là qu'il y avait dans le système d'avoir des 4 chambres à coucher, des 3 chambres à coucher.
OK, puis c'était dans un quartier résidentiel?
Quartier résidentiel, il y avait à peu près une dizaine de maisons, c'était vraiment dans un cul-de-sac, juste à côté d'une gare de train. C'est que, en tout cas, la ville nous a fait beaucoup, beaucoup d'embûches. Ils voulaient un projet finalement plus petit. Mais là, je leur dis, écoute, moi, j'ai acheté un terrain pour faire un 4-plex, donc je vais construire un 4-plex, puis le règlement me le permet. Mais le problème, c'est qu'avec les comités de consultation urbaine, les CCU, mais eux ont le droit d'avoir un avis discrétionnaire. Puis eux trouvaient que ce serait plus beau de construire un triplex ou un duplex. Mais écoute, en pénurie de logement, c'est épouvantable de dire qu'un terrain qui est permis de faire un 4-plex, on veut t'en faire construire un duplex.
OK. C'est donc une dizaine de versions, 3 firmes d'architectes. Finalement, est-ce qu'ils ont dit oui à votre projet de 4 logements?
Oui, ça a pris une petite tourloupe d'année de dire qu'on va construire un triplex, mais avec un logement sous-sol.
Okay. Une fois que le comité d'urbanisme a dit oui, quelle a été la suite?
Ben, la suite, ça a quand même été bien. On a eu des permis après 6 ans quand même.
6 ans?
Quand même plus, ouais, 6 ans, plusieurs dizaines de milliers de dollars d'architecture, etc., puis de taxes. Puis en plus, c'est drôle parce que j'ai même eu des contraventions à cause que mon gazon était trop long. Parce que je ne pouvais pas construire. En tout cas, ça a été... c'est correct, admettre. La loi l'oblige, mais c'est quand même drôle que moi, je veux construire, mais je me parce que j'entretiens moi mal mon terrain, mais finalement, je veux juste moi faire un bâtiment dessus. Là.
Est-ce que c'est toujours comme ça avec la ville? Êtes-vous un cas d'exception pour Montréal ou pour d'autres villes?
Écoute, ça, là, il a été assez ardu. Par contre, je peux pas... En règle générale, 1 an est à peu près coutume, même si c'est très long. Mais j'ai un autre exemple aussi que, justement, des dossiers perdus par la ville, des demandes sur des demandes. On est quand même assez habitué à en faire des projets de construction à Montréal. Fait qu'on demande la liste à la ville de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour émettre le permis. Puis finalement, on coche tous les items qui avaient été demandés. Mais une fois qu'on remet le document, j'aimerais aussi avoir un plan de civil, un plan de... Là, ils sont rendus aussi très compliqués parce que avant, un plan d'architecte et structure était suffisant. Aujourd'hui, pour un bête quatreplex, là, je ne parle pas d'un logement de 10 logements, une centaine de logements, là, il faut un plan civil, d'ingénierie, électrique, mécanique, structure, architecturale. Écoute, ça n'a aucun sens.
Avez-vous un autre projet actuellement en attente que vous allez réaliser dans 12 ans?
Non, mais par contre, si vous me laissez une petite fenêtre, moi, quelque chose que je vois qui est un problème pour moi et qui va être un problème avec beaucoup d'autres promoteurs, On s'entend pour l'instant, il y a pénurie de logements à Montréal, donc il faut en construire. Nous, on a des projets que malheureusement, on a dû mettre sur la glace, vu que on a une augmentation de coûts d'après, écoute, épouvantable depuis la pandémie du coût de construction.
Puis les taux d'intérêt.
Les taux d'intérêt ont augmenté. Et les banques, finalement, puis à tout respect pour eux, ben eux, le montant, disons qu'ils passaient à 80% du montant au final, mais ils révisent à la baisse, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, ben ils révisent que, ben finalement, à la fin du projet, ils passent juste 50%. Donc, on s'entend que ton projet te coûte plus cher, il te passe moins d'argent, puis il sera même pas rentable. Je te parle même pas de projets abordables. Je te parle des projets qui sont avec des loyers chers, si on peut dire, mais même ça, c'est pas rentable alors qu'on se parle. Puis là, pour l'instant, moi, j'en ai deux sur la glace. Puis le problème, c'est au renouvellement ou à l'extension du permis. Puis pour l'instant, moi, j'ai deux permis. Puis si je commence pas maintenant, ben il faut que je recommence le processus de permis et de plan. Et là, encore là, minimum un an. Ça, c'est épouvantable.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thomas Smister est PDG de construction de Tomico. C'est pas que la maison des fous, là. Tu fais approuver ton permis, mais là, des problèmes de financement, il faut que tu recommences le processus. Après ça, on se demande pourquoi, entre autres, il y a cette pénurie de logements à Montréal. Et là, je lisais aussi dans cet article de la presse qu'on a un comité pour faciliter les choses. On aime beaucoup ça à la Ville, des structures, des étapes, des congrès, des forums. Là, mais là, c'est une patente pour faciliter les choses.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Oscar a 15 ans, c'est donc un adolescent qui a reçu malheureusement un diagnostic de cancer au cerveau. Son médecin pense qu'on pourrait lui administrer un traitement avec l'aide d'un casque à champ magnétique. On va vous détailler tout ça dans quelques instants. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Régie d'assurance maladie du Québec. Et que les parents, évidemment, veulent donner le meilleur à leur fils. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle pression on exerce? Et pourquoi l'État ne veut pas payer ou encore les assurances privées? Je vous présente nos deux invités ce matin. Pascal Jarry, qui est le père d'Oscar. Monsieur Jarry, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcan. Merci de m'écouter ce matin.
Ça fait plaisir, monsieur. Et docteur David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur aussi au Centre de recherche du CHUM. Docteur Roberge, bonjour.
Bon matin.
Monsieur Jarry, je commence avec vous. À quel moment Oscar a eu ce diagnostic de cancer au cerveau?
On a eu le diagnostic cet été, le 4 juillet plus précisément. Il y avait sa main gauche qui allait mal, qui fonctionnait pas bien. Puis on est allé à Sainte-Justine. Ils ont fait un scan pour nous annoncer qu'il y avait une tumeur de 5 cm au centre de sa tête.
Et quels ont été les traitements, les soins qu'on a prodigués à Oscar quand on a eu ce diagnostic?
Mais dans un premier temps, il fallait comprendre, pardon, quel était le problème. Donc, il y a eu une opération. On est allé faire une biopsie pour aller chercher un bout de la tumeur. Au début, on ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. Quelques jours plus tard, on a su que c'était un gliome de haut grade. Et nous, on ne savait pas trop c'était quoi un gliome de haut grade. Mais pour bien comprendre assez rapidement que c'est un cancer qui est très agressif. Il n'y a plus de moyens de le combattre. Puis, en fait, Oscar fait face à un pronostic très sombre.
Aujourd'hui, comment va-t-il?
Aujourd'hui, Oscar va quand même bien. Après avoir été diagnostiqué avec son cancer, le protocole, je crois, puis Dr. Robert, je suis revenu le dire comment, mais le protocole classique a été appliqué, donc de la radiothérapie, 27 traitements de radiothérapie consécutifs, et tous les jours, on allait au CHUM. Avec de la chimiothérapie en même temps, ça fait environ un mois que c'est terminé. On recommence le nouveau traitement de chimiothérapie jeudi. Et aujourd'hui, ben fatigué, très fatigué, Oscar, mais ce matin, t'es allé à l'école tout seul. On l'a gardé souvent à la maison depuis un mois, mais ce matin, il est allé à l'école tout seul. Puis il vit une vie à peu près normale pour l'instant, pas mal à la tête, mais une grande fatigue profonde.
Monsieur Jarry, vous restez avec nous. Docteur Robert, je peux peut-être mieux nous expliquer le cancer d'Oscar, puis en quoi ce casque à champ magnétique peut l'aider.
Les gliomes de Haut-Grade, c'est des tumeurs qui prennent naissance dans le cerveau. Dans le cerveau, on a comme des neurones qui font qu'on pense, puis qu'on bouge, puis qu'on fait tout ce qu'on fait. Puis autour, il y a comme de l'isolant, comme s'il y avait de l'isolant des fils électriques. C'est des tumeurs de cet isolant-là. Là. Puis, comme dit le papa, c'est des tumeurs qui ont un pronostic qui peut être très difficile. C'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes. On comprend que il se passe pas magiquement quelque chose entre 17 ans et 18 ans qui font que les tumeurs sont différentes ou que les traitements sont différents. C'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes que chez les enfants. Puis on applique, n'ayant pas d'autres recettes pour les adolescents, on applique chez Oscar la recette standard chez les adultes, là, soit d'en enlever le plus possible, de faire de la radiothérapie puis de la chimiothérapie.
Et le casque à champ magnétique, expliquez-nous comment ça peut aider Oscar. Est-ce qu'on l'utilise déjà?
C'est des traitements avec des champs électriques, c'est dans la subtile différence. C'est un traitement qui existe depuis longtemps. Moi, la première patiente à qui je l'ai prescrit en 2013, ça date pas d'hier. C'est un traitement, c'est comme des électrodes qu'on se colle sur la tête qui vont envoyer des champs électriques au niveau de la tête. Ça attaque la tumeur. Ça c'est un peu particulier. On en voit de plus en plus des patients là, qui se promènent justement avec ces électrodes-là, puis une espèce de boîtier là, qui envoie les champs électriques au niveau de la tête. C'est un traitement qui est approuvé au Canada depuis l'année passée. Ça fait que Santé Canada fait l'approbation en 2022. Plusieurs années après l'approbation dans d'autres pays, là, comme nos voisins du Sud là, aux États-Unis. C'est un traitement qui est reconnu comme prolongeant l'espérance de vie pour les patients avec des gliomes de haut grade. Là.
Il y a quelque chose que je comprends pas. Vous avez raison, ça a été entériné, là, approuvé par Santé Canada, mais pour les adultes seulement?
Oui, ben c'est pas rare, je vous dirais. Quand on fait des projets de recherche pour des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes, souvent des projets de recherche qui sont faits dans des hôpitaux adultes qui sont souvent pas les mêmes que les hôpitaux pour les en bas de 18 ans, ben dans le projet de recherche, on spécifie une gamme d'âge, souvent 18 ans et plus. En plus, aux États-Unis, c'est 22 ans et plus. Mais faut comprendre que l'approbation de Santé Canada, ça reconnaît des évidences que dépose le manufacturier. Après ça, les médecins font ce qu'il y a de mieux pour leurs patients. Puis, il y a déjà des plus jeunes patients qui ont été traités avec ce traitement-là. Puis, si on pense que c'est le mieux, il y a une certaine liberté de faire ce qu'on pense qui est mieux pour le patient normalement. Là.
Parce que ce que vous me dites, c'est que c'est un traitement qui peut être bénéfique pour un adolescent. Là. Comme vous avez dit tantôt, c'est pas parce qu'on atteint 18 ans qu'on change soudainement, radicalement. Là.
C'est certain que on n'a pas des études où est-ce qu'on a pris 700 adolescents et on a tiré à pile ou face pendant de traiter la moitié de ce traitement-là. Mais comme je vous dis, on fait ce qu'ils pensent, ce qui est le mieux dans la situation quand on n'a pas toutes les données. Puis je pense que ça peut aider là, un adolescent avec ce type de tumeur-là, oui.
Est-ce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, selon vous? Parce que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, là, qui fait les recommandations au gouvernement, dit au ministère de pas, enfin, la RAMQ, de pas rembourser parce que le prix est trop élevé.
C'est une situation un peu particulière pour moi. Dans mon expérience de ce genre de dossier-là, ce dossier-là, j'étais un peu surpris par le dénouement. On est tous des payeurs de taxes. On comprend que la capacité de payer est pas illimitée. Les traitements sont souvent très dispendieux. Nos voisins du Sud ont un système de santé différent où il y a des prix de liste, entre guillemets, là, qui sont très élevés. Mais moi, je m'attendais dans une situation comme ça que l'INES dise, ben, avec leurs professionnels, on analyse le dossier, puis oui, on reconnaît un bénéfice thérapeutique au traitement, mais le prix proposé, on le trouve élevé, puis on recommande de négocier le prix, ce qui fait du sens. Puis c'est comme ça que ça finit pour beaucoup de traitements. Puis là, après ça, ben le manufacturier, puis le gouvernement s'assoit, puis il négocie un prix qui fait l'affaire de tout le monde. Ça fonctionne pas toujours. Des fois, il arrive pas à une entente. Mais dans cette situation-là particulière, l'INES a reconnu le bénéfice thérapeutique du traitement, mais n'a pas recommandé une négociation de prix.
Vous m'avez dit tantôt qu'il y a quand même plusieurs patients au CHUM qui ont profité de ce traitement-là. Dans leur cas, est-ce qu'ils ont payé de leur poche? Est-ce que ça a été remboursé? Comment ça a fonctionné?
Ouais. Moi, personnellement, j'ai environ une centaine de patients qui ont eu le traitement. Puis je vous dirais que c'est un mélange de patients qui étaient dans des projets de recherche. Dans le cadre du projet de recherche, les frais étaient couverts là, pour le traitement. Puis j'ai aussi des patients... où la société qui produit le traitement l'a offert comme en compassion. Moi, j'ai pas de patients qui l'ont payé eux-mêmes. J'ai la notion que à d'autres époques, il y a des patients canadiens qui s'étaient peut-être déplacés là aux États-Unis pour le payer, mais moi, j'ai pas de patients dans cette situation-là.
OK. C'est un traitement, dit-on, qui coûte 27 000 $ par mois. Je reviens au père d'Oscar, Pascal Jarry. Monsieur Jarry, vous allez faire quoi? L'État vous dit, on rembourse pas. Votre fils, ça peut lui faire du bien. Le médicament, en fait, le traitement plutôt, et le casque existe. C'est quoi vos intentions?
Bon, on travaille sur plusieurs angles. Le premier angle, c'est travailler avec notre assurance privée, Manuvie, qui nous a refusé le traitement, mais en même temps, on a fait appel, puis c'est bien écrit dans la documentation qu'on a droit à 500 000, jusqu'à une limite de 500 000 pour ce type, non pas le traitement lui-même, qui n'est pas sur la liste, un nouveau traitement qui n'est pas reconnu, j'ai l'impression, par les assureurs, de par la nouveauté, peut-être aussi par le fait que l'INES ne veulent pas... on n'a pas eu des recommandations positives dessus, mais on a de l'espoir au niveau de l'assureur, on a aussi de l'espoir au niveau de programmes spéciaux par le CHUM ou Sainte-Justine, on a aussi l'employeur de ma conjointe qui avec qui on est assuré, qui peut jouer un rôle dans tout ça pour aller essayer de faire évoluer le dossier chez Manuvie, mais surtout je m'attends à ce que le gouvernement puis le Centre de du Québec fasse un geste pour donner à Oscar accès aux médicaments, ben, au traitement.
Docteur Roberge, est-ce que le temps est un facteur important dans le cas d'Oscar?
Oui. Encore là, on n'a pas de situation où est-ce qu'on a fait par exprès pour retarder le début du traitement. Normalement, c'est un traitement qui commence environ un mois après la radiothérapie. Si on a accès cinq semaines après, est-ce qu'on a perdu beaucoup? C'est difficile à dire, probablement pas, mais c'est pas quelque chose qui peut traîner six mois, là.
Non, il faut prendre une décision puis la prendre le plus rapidement possible.
C'est exact.
Monsieur Jarry, on imagine, même si on n'est pas dans votre peau, là, comment vous vous sentez. Vous dites, il y a des options pour mon fils... Puis là, je dois me battre pour essayer de lui offrir. Puis il y a un enjeu de politique, puis il y a un enjeu d'argent. Mais pour vous, ce qui compte, c'est Oscar, puis qu'on trouve la façon la plus rapide pour l'aider.
Absolument. Moi, que le traitement vienne de n'importe qui, c'est pas l'enjeu. Pour moi, l'enjeu, c'est que Oscar puisse avoir son casque le plus rapidement possible. Hein? Comme je disais tout à l'heure, on rencontre son docteur jeudi, on va avoir le résultat de l'IRM, on va connaître la progression de son cancer, on espère que ça n'a pas progressé, mais comme le docteur Roberge nous l'expliquait, c'est à ce moment-là là, qu'il faudrait avoir le cas, donc on est à J-2, là, J-1 même, mercredi matin, donc c'est pour nous, c'est critique en ce moment.
Merci beaucoup, M. Jarry. Bonne chance à vous, Oscar, toute votre famille. Merci beaucoup aussi au Dr David Roberge. Pascal Jarry, père d'Oscar, et Dr David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Ce sont des situations qui arrivent où on On a d'un côté une option de traitement et l'État évalue que c'est trop cher, qu'on peut prolonger la vie, on peut améliorer ses conditions. C'est un cancer hyper agressif. Les pronostics, évidemment, ne sont pas jojo. Et je sais qu'on peut se dire, ouais, mais là, c'est peut-être trop cher. Puis... Mais en même temps, si vous étiez M. Jarry, puis que c'est votre gars ou votre fille qui a 15 ans, 16 ans, un cancer, tu veux tout donner, tu veux offrir ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui est disponible. Puis j'en reçois des courriels de gens là, qui vont même à l'étranger, puis qui des gens peut-être plus fortunés, ils vont avoir des co-fondemi. Mais il me semble qu'il y aurait moyen de trouver une façon pour qu'Oscar puisse avoir son fameux casque à champ magnétique.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Hockey Québec annonce à nouveau sa campagne pour ramener les bonnes pratiques dans le monde du hockey, le respect, l'intégrité, la diversité, l'inclusion. Deux invités sont là. Alain aussi est un des commentateurs qui pourra intervenir. Jocelyn Thibault, qui est le DG de Hockey Québec, bonjour.
Bonjour.
Et David Bocage, qui est humoriste et auteur de ses capsules. On va entendre un extrait tantôt. Bonjour.
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 L'année passée, c'était une semaine.
Ouais.
Là, c'est un mois. La situation se détériore?
Non.
Les gens sont plus durs de comprendre.
Non, c'est pas ça. Non, ça a fait une semaine. Il y avait trop de contenu pour une semaine. C'est la première fois qu'on le faisait. Puis ça a été super bon, une belle réponse. Mais il y a beaucoup de contenu. Puis ça, on n'avait pas le temps vraiment d'aller plus en profondeur dans les différents éléments. Fait que cette année, on s'est moins condensé. C'est sur un mois, on étend ça. Et puis, c'est vraiment pour cette raison-là. C'est pas parce que c'est pire.
OK. C'est l'objectif, si vous aviez à traduire pour les gens qui écoutent, là, vous cherchez à faire quoi puis amener les Québécois où?
Que les jeunes, on parle de hockey, mais de façon générale, dans le sport, vivent une relation différente avec leur sport. Je pense que d'avoir une relation plus plaisante, vraiment, t'sais, d'apprendre des choses, d'une part. Il n'y a personne qui aime ça arriver au travail, puis t'sais, vivre mieux, parce que tout le monde crie, tout le monde est un environnement toxique. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient du fun, que les entraîneurs aient du fun, que les officiels aient du fun de venir à l'aréna. Et puis, puis vraiment, là, que les gens, avant de poser des commentaires, faut poser des gestes qui pensent à vraiment, OK, pourquoi je suis ici? C'est vraiment ça qu'on veut accomplir.
Est-ce que vous sentez que les choses changent dans le hockey mineur?
Oui, pas assez vite à mon goût, à notre goût, je devrais dire. Oui, tu sais, je me promène quand même beaucoup dans les arénas, là, puis je sens plus de retenue. On est loin encore d'arriver là où ce que je pense qu'il faut qu'on soit. Mais oui, je pense que puis c'est anecdotique encore parce que là, on commence à mesurer les choses. Mais oui, je pense qu'un petit peu.
Le fait que le hockey soit si populaire et c'est vraiment sous la loupe le hockey au Québec, là, pensez-vous que vous devenez toujours un peu le bouc émissaire des problèmes qu'il y a dans le sport chez les plus jeunes? Là?
Beaucoup. On est très exposé, je pense, en raison de peut-être l'importance qu'on accorde culturellement ici au Québec. Puis les gens, un peu à cause de ça, mais les gens ils pensent que le hockey mineur, c'est le même hockey que la Ligue nationale. C'est d'autres choses. Et même la Ligue nationale, si vous écoutez Martin Saint-Louis parler depuis deux ans, il est ailleurs dans sa tête en termes de développement, en termes d'approche avec les joueurs, en termes d'ambiance, en termes de culture. Fait que nous, c'est vraiment de faire comprendre aux gens si on est capable de dire, écoutez, t'es capable de t'améliorer, de te développer dans l'apprentissage, dans le plaisir, dans le respect. Fait que on m'aide plein de choses.
On va écouter un extrait d'une des capsules.
On le distingue à son magnifique dessin rayé, mais attention de ne pas le confondre avec un vendeur de magasins de souliers bien connu. Le zèbre des glaces est malheureusement une espèce en voie d'extinction en raison de ses prédateurs naturels, le parent enragé et l'instructeur fou furieux. Ceux-ci, dans l'émotion vive d'un match, se montrent trop souvent hostiles envers l'officiel, oubliant l'humain en dessous du dossard, souvent un adolescent passionné ou un homme semi-retraité sympathique. Et pourtant, le zèbre des glaces est un héros obscur et essentiel du hockey, car c'est lui qui assure le respect des règles et le bon fonctionnement de la rencontre.
David Bocage, faut être passionné par le hockey d'abord.
Oui. Oui, moi je suis complètement fou de hockey. J'ai un podcast de hockey depuis 8 ans auquel Jocelyn est venu. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai fait tout mon hockey mineur sous le régime d'Hockey Québec de 5, 6 à 21 ans pratiquement. Fait que quand il m'a approché, j'étais comme mon Dieu, tu pourrais pas plus tomber dans le mille parce que tout ce qui est aréna, hockey mineur, je l'ai vécu de l'intérieur. Puis c'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que oui, évidemment, ça me faisait plaisir d'amener ma créativité au service de ça, mais en tant que gars qui a joué son hockey mineur au Québec, j'ai eu tellement des expériences positives, puis ça m'a tellement apporté, le hockey, comme, parce que, on parle, Jocelyn parle de le hockey mineur, qu'est-ce que ça t'apporte, le sport, mais, on joue pas au hockey mineur pour jouer dans la Ligue nationale, ultimement, Jocelyn fait partie du .00.
Il y a certains parents, oui, par exemple.
Oui, exactement, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est les gens.
Mais tes parents étaient comment avec toi?
Oh, mon Dieu.
Sous contrôle, ou?
Mon Dieu, mon père avait une pile de journaux à rattraper dans les estrades, et c'était parfait, là, tu sais, regardait le match, mais en même temps, il était comme, un petit let's go quand c'est le temps, mais mes parents étaient très comment, tu sais, t'as-tu du fun, t'as du fun, on continue, puis c'est l'aspect plaisir, je pense qu'il faut pas que les parents, les coachs oublient. C'est pour ça qu'on a fait les capsules, puis on a utilisé la loupe de l'humour, c'est que, tu sais, des fois, les parents qui viennent à l'aréna, puis les coachs, ils se disent pas aujourd'hui, je vais crier après un arbitre de 14 ans, mais dans l'émotion, des fois, tu sais, des fois, juste d'avoir la loupe, que la capsule leur donne un certain recul, faire, je suis en train de crier après. Tu sais, oubliez pas que comme quand votre enfant joue à 6 ans, il apprend à patiner, l'arbitre de 14, il apprend à arbitrer, tu sais. Ça se peut qu'il rate un call, il commence à faire ça, puis c'est correct, tu sais. Puis c'est un petit peu d'amener ça avec l'humour de faire tout ça, parce que le hockey mineur, au final, m'a tellement apporté plus, tu sais.
Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, le hockey mineur?
C'est parce que le hockey, t'apprends, puis je sais, c'est cliché, mais t'apprends la vie, tu sais. Je veux dire, moi, c'était ma première passion, la première affaire à laquelle je voulais travailler puis être bon, fait que t'apprends à travailler en équipe. Tu sais, le sport d'équipe, je parlais de ça à Jocelyn hier, mais moi, j'ai un ami, mettons, qui est dans un groupe de musique, il m'a dit, moi, je vais plus dans des groupes de musique avec des gens qui n'ont pas fait de sport d'équipe, parce que ça donne une compréhension de ton rôle dans un groupe d'apprentissage. Tu sais, dans mon métier aujourd'hui, c'est faire un film, c'est un sport d'équipe.
Tu peux pas faire les choses à ta tête, non, là. Tu peux pas.
Mais c'est en fait de savoir c'est quoi ton rôle, comment collaborer avec les gens, comment arriver au même but. Puis ça, t'apprends ça dans. Tu t'en rends pas compte quand t'es jeune, mais tu sais, si t'es lié droit, si tu joues sur des avantages, tu joues sur le power play, que tu joues, ça t'apprend, OK, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce que moi je fais dans l'opération? Ça semble banal, mais rendu adulte, tu le vois souvent rapidement qui a été dans des sports d'équipe, qui l'a pas été. C'est ça, tu sais, les apprentis.
Paul, c'est amener ta game dans la game.
Oui, oui, ça. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé en faisant des tribunes téléphoniques sur les dérapages comme ça, là, d'adultes. Des adultes aujourd'hui qui étaient ados il y a, je sais pas, 20 ans, 15 ans, puis qui ont vécu ça, exemple, un père qui crie, qui engueule un arbitre, puis ça. Et ils décrivent le malaise que, comme gars, fils, tu ressens. Quand tu vois ton père perdre les pédales, devenir complètement fou, ça a deux effets. D'abord, tu te dis, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Puis ça, comme, t'enlève un peu le goût de jouer. Personnellement, j'ai le goût de décrocher. Pas le goût d'avoir cette pression-là. Je suis là pour m'amuser, mais mon père ou ma mère, là, parce que ils comprennent pas ça.
Ben, M. Arcan, vous avez tout à fait raison. Les jeunes veulent pas ça. Il aime, tu sais, le jeune est sur le banc, il aime pas ça quand son entraîneur crie après un officiel, il aime pas ça quand son papa ou sa maman, quand les jeunes sont pas bien là-dedans, vous avez tout à fait raison. Fait que c'est ça qu'on essaie de changer un peu par l'humour puis en parlant.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'interdire l'accès aux parents?
Oui. Il y a un projet, d'ailleurs, que j'en parlais avec les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a un projet, je pense qu'ils l'ont fait l'année passée, un projet pilote vraiment à plus petite échelle où ce que les gens sont arrivés à l'aréna, puis ils ont mis dans une salle, ils ont dit, OK, là, vous rentrez pas dans l'aréna. Mais on y a pensé, mais pour vrai, c'est difficile à réaliser dans les faits, mais quelque part, peut-être, de pousser ce projet-là ailleurs. Encore une fois, on est dans la... Faire réaliser les gens. T'sais, on est plus dans passer un message, dans le fond, mais... C'est pas ça l'objectif, que les gens voient pas leur enfant.
Mais moi, j'ai un ami qui a joué au hockey, son fils joue au hockey. Puis il me disait, c'est quoi la chose la plus importante pour les jeunes? C'est aller à l'école. C'est là où tu vas. À l'école, les parents sont pas là. Ils sont pas dans la classe pendant le cours. Pourquoi les parents seraient dans les estrades là, pendant que l'enfant s'amuse à crier après les arbitres?
Ben, c'est parce que si l'arbitre est pas bon puis le coach fait pas jouer mon gars, il faut bien que je le vois.
C'est ça. Mais écoute, c'est sûr que rien de parfait. Il est arrivé un événement à Gatineau la semaine dernière. En tout cas, on l'a appris la semaine dernière. Là, un joueur qui a été initié ou en fait tabassé par des coéquipiers. Puis c'était un peu l'affaire de Floyd aux États-Unis. Là,
c'est un cas de racisme.
C'est ça, je peux pas respirer. Puis est-ce qu'il y a une enquête qui a été menée là-dessus? Est-ce que ça relève d'Hockey Québec, cette affaire-là?
Ouais, en fait, en vertu de la politique... d'intégrité qu'on a, qui relève du ministère, qui arrive du ministère. Tous ces genres de cas-là, il faut diriger ces cas-là vers l'officier des plaintes. Donc, c'est un third party, là, c'est un corps indépendant qui, pour les fédérations québécoises, gère ce genre de dossier-là. Donc, les gens, c'est un peu un tribunal, entre guillemets. Il y a une plainte qui est déposée. Il y a des gens qui siègent et puis il y a des décisions qui sont rendues. C'est totalement anonyme. La problématique qu'on a eue, je suis pas autorisé de parler du dossier comme tel, mais je peux plus parler du processus, c'est que dans le processus, l'Officier des plaintes, à un moment donné, nous a réalisé les limites de la politique, nous a demandé d'aller en enquête indépendante que Hockey Québec a assumé à ses frais et qui a été coordonnée par l'Officier des plaintes. Donc, à la fin du processus, il y a eu, encore une fois, entre guillemets, un procès avec des sanctions. Et puis, on est dans l'obligation, les fédérations, d'appliquer les sanctions qui sont données. Alors, c'est ce qu'on a fait.
Parler de diversité, est-ce que le hockey, vous sentez que ça attire de plus en plus des gens des différentes ethnies, là?
Oui, mais pas assez. Tu sais, c'est passé. J'avais une étude qui disait au niveau des nouveaux arrivants, il y a à peu près 72-73% des nouveaux arrivants qui ont vraiment de l'intérêt pour le hockey. Tu sais, qui arrivent ici, ils disent, c'est cool ça, c'est jeu. Mais il y a à peu près, on a une rétention de près 3-4%. Fait qu'il faut vraiment s'assurer. Il faut vraiment développer, justement, l'attrait ou l'accessibilité du
hockey. Mais c'est un sport qui coûte cher. On va se le dire. Jouer au hockey, ça coûte cher, là.
Ça coûte cher. Puis, pour vrai, il y a quelqu'un qui me faisait réaliser aussi, juste pour un nouvel arrivant, d'arriver dans un magasin de sport puis se magasiner un stock de hockey, là, c'est intimidant, là, ils sont gênés, les gens sont comme, OK, je commence par quoi? Ils sont pas accompagnés, ils sont pas coachés là-dedans. Puis il a raison, Alain, c'est
dispendieux. Ils sont pas exposés. Ouais. C'est pas comme le soccer qui a une réputation mondiale. Ils ont joué, ça coûte rien jouer au soccer. Là.
C'est bien plus facile.
Ben oui, là, t'arrives avec des coûts puis la disponibilité des parents aussi. Là,
c'est ça. Puis il y a des beaux programmes qui existent, mais qui s'en viennent dans le Canada à cet effet-là. Puis je pense que ça va aider la cause.
Là, les capsules que tu as réalisées, David, là, les gens ont accès à ça comment? Comment ils vont pouvoir voir ça? À qui vous allez envoyer ça dans le.
On les envoie à 3 personnes par courriel. On va les sortir sur les réseaux sociaux, en fait. On est là aujourd'hui parce que c'est le lancement 1er novembre, vu que le mois de novembre est le mois resserré de notre hockey. On en sort une par semaine tout le mois de novembre. Donc, ils vont en avoir 4 sur les réseaux sociaux. Autant d'Hockey Québec partagé sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même TikTok, si je ne me trompe pas. Fait que, c'est souvent sur les réseaux sociaux qu'on va les voir sortir une à une.
Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, tous les deux.
Merci.
Jocelyn Thibault, qui est le directeur général de Hockey Québec, et David Bocage, qui est le créateur de ces capsules.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Frédéric, le Parti québécois qui présente une vidéo sur les réseaux sociaux sous forme de foire aux questions.
J'ai consulté ça sur Instagram. C'est le chef Paul Saint-Pierre Plamondon qui répond aux questions en 5 secondes sur les finances d'un Québec souverain, advenant le Québec souverain.
En 5 secondes,
dont les revenus, le budget. Le début, c'était un peu plate, mais ce qui devient intéressant, c'est lorsqu'on commence à parler de hockey, on voit un Paul Saint-Pierre Plamondon décontracté. Et vous allez voir qu'on nage dans des dossiers assez chauds au Parti québécois.
Est-ce que les Canadiens de Montréal vont garder leur nom dans un Québec pays?
Bien sûr. En fait, rappelons que Canadien vient de Canadien français. Et donc, c'est un nom qui nous a été un peu confisqué à travers le temps. On dit Québécois aujourd'hui, mais bien sûr qu'on va garder cette tradition-là comme bien d'autres.
Juste une précision, le Canadien de Montréal, le nom, là, c'est pas une tradition,
c'est une entreprise
qui s'appelle le Canadien de Montréal.
Le club de hockey canadien, c'est comme si on...
Si le Canadien veut changer de nom, ça appartient au Canadien.
Ben, c'est comme les Tim Hortons, on n'ira pas prendre un café 2-2 au café Maurice Richard.
Non, c'est ça.
C'est ça. Mais quand même, ils font beaucoup parler d'eux, prennent beaucoup de place pour 4 personnes. Il y a toujours la petite twist pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux.
Écoute, ils ont développé une technique, je sais pas si t'as remarqué. Un peu comme un caucus au football. Les 4 se prennent comme ça par le cou, puis ils se mettent... Oui. Tu sais, ils sont quand même intéressants. La tendance du slide back, c'est quoi ça?
En fait, c'est partout ces jours-ci. C'est une danse, et on le sait à travers les époques. Il y a eu la Macarena, il y a eu le Gundam Style, il y a eu le shuffling avec LMFAO, qui ont été très, très populaires, ces danses-là, sur les réseaux sociaux. Moins la Macarena, parce que c'est dans les années 90. Mais le floating slide back, c'est ce qu'on appelle aussi le jubi slide. C'est viral. C'est comme une espèce de moonwalk sur le côté. Et ça crée une illusion d'optique qui fait qu'on dirait que les danseurs volent sur le côté, littéralement, à un point tel où je pensais que c'est un montage vidéo. C'est partout. Et comme le Gundam Style avec Psy, le chanteur, ça vient de la Corée du Sud. C'est un étudiant qui a lancé le mouvement. Sa vidéo a été vue plus de 200 millions de fois sur les réseaux sociaux. Ça fait le tour du monde. Si vous voulez apprendre le floating slide back, ben, il y a des tonnes de vidéos qui vous expliquent comment. J'ai tenté l'expérience. Ça n'a pas été une grande réussite.
Ça n'est pas envolé.
Je me suis pas envolé, même que j'ai eu de la misère à rester au sol. Mais si vous avez des jeunes à la maison, peut-être que vous avez déjà été confronté à cette chorégraphie ou peut-être que vous allez voir cette chorégraphie-là se faire filmer à la maison en fin de semaine.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route, avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.